On est en train de virer fou, là.
Mathieu Bock-Côté.
Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens.
Richard Martineau.
C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas.
La rencontre Martineau Bock-Côté.
Mathieu, j'espère que Éric Bédard, qui est historien, qui va piloter ce projet-là de Musée national d'histoire du Québec, j'espère qu'il a la couenne dure parce que ça va brasser. Toutes les minorités vont vouloir avoir leur chambre, leur salle dans ce musée-là. Oui, mais vous n'avez pas pensé à notre minorité, à nous autres, etc. Ça va être la foire d'empoigne.
Ouais, en fait, c'est assez intéressant ce dossier, parce que le gouvernement du Québec veut faire un musée d'histoire nationale, ce qui est une très bonne chose. Je pense que les Québécois ont un rapport incomplet à leur histoire. Ils en connaissent la trame de fond, je crois, mais elle ne structure plus le débat public depuis longtemps. T'sais, je dirais, les Québécois résument ainsi leur histoire. On est arrivé, on était en paix avec les Indiens, hein, comme on disait autrefois. Les Anglais ne l'étaient pas. Là, à un moment donné, on occupait, c'était compliqué, il faisait froid. Puis on a réussi à construire une colonie, puis là, à un moment donné, on s'est fait battre par les Anglais, puis là, ça a été tough. On a essayé de se redresser avec les Patriotes, on s'est fait planter. Puis après ça, ben, il y a eu l'Église qui s'est occupée de tout, puis à un moment donné, on s'en est libéré, on a fait la Révolution tranquille, puis on a chassé les curés, puis on a affirmé le français, puis on n'est plus des porteurs d'eau, puis on a raté l'indépendance, puis là, on sait plus trop. Donc ça, je dirais que c'est l'histoire du Québec telle que vécue par les Québécois mentalement. Alors là, l'enjeu, c'est qu'on nous explique immédiatement, il y a tous les lobbies qui se mobilisent en disant un récit de l'histoire du Québec qui permettrait aux Québécois de se familiariser, de se réapproprier leur histoire, c'est illégitime, parce que ce serait exclusif. Il y a la question des Premières Nations, des Amérindiens. Alors là, il faut juste s'entendre. Si les Amérindiens sont des nations, et évidemment qu'ils le sont, c'est pas la même nation que la nation québécoise. Dès lors, un musée de la nation québécoise, à moins que ce soit l'histoire, ce que je lisais hier, je ne sais plus quel farfelu sur Twitter, dire « c'est un musée du territoire québécois ». Mais le territoire veut rien dire en soi. Le territoire est un objet d'appropriation humaine. C'est parce qu'il y a un peuple qui, ici, a construit un État, que cet État s'est voulu l'expression politique de la nation française d'Amérique, qu'on a nommé au fil du temps canadien, canadien-français, québécois, aujourd'hui on sait plus trop comment. C'est pour ça qu'on raconte une telle histoire. C'est pas une histoire géologique qu'on propose. Puis par ailleurs, s'il faut reconnaître l'identité des nations autochtones, mais ça implique quand même que celui qui reconnaît, c'est sa propre identité. Puis il n'est pas illégitime que les Québécois aient leur propre histoire. Donc là, il y a la question des autochtones. Ensuite, il y a la question de la minorité anglaise. Ensuite, il y a la question des communautés dites ethnoculturelles, qui pourtant se sont agrégées, certaines d'entre elles, à la majorité historique francophone, d'autres c'était plus compliqué. Mais ce qu'on comprend, c'est que tout projet d'histoire nationale est vu comme étant fondamentalement suspect. Je note que Nicolas Sarkozy, qui en France a voulu faire un projet semblable, a pas pu le faire finalement. Il était torpillé complètement par les différents... En 2007, il voulait lancer ça, puis ça s'est planté. Donc, pour mener ce combat-là, il va falloir des intellectuels, des historiens de grande qualité. Il y en a au Québec, Charles-Philippe Courtois, par exemple, on pourra nommer plusieurs, mais ils sont pour la plupart isolés dans l'espace institutionnel parce que le lobby des historiens patentés universitaires, globalement, est dans une perspective, on pourrait dire, très, très diversitaire. Donc là, il faut voir à quel point l'histoire du Québec est maltraitée dans l'université québécoise. Il faut juste jamais l'oublier. Donc, quand on est devant ça, il est bien que le politique prenne ça en charge, confie ça à des gens compétents. On espère que ces gens compétents, à qui on prête avec raison des convictions fortes, on espère qu'ils auront le courage nécessaire pour les défendre. On espère qu'ils auront la colonne vertébrale nécessaire pour les... On espère qu'en fait, qu'ils auront le courage de ne pas quémander l'approbation de tous ceux qui, fondamentalement, sont en désaccord avec toute forme d'expression nationale québécoise. Donc, on va leur souhaiter bon courage, parce que ça va être nécessaire. Dans les circonstances, qu'il faut, c'est avoir les idées claires et avoir la capacité de les défendre sans s'excuser d'exister. C'est deux choses distinctes.
Mais écoute, tu viens de m'apprendre qu'en France, ils ont essayé ça, puis ils se sont plantés. Mais donc, c'est un combat perdu d'avance. Si la France n'a pas pu avoir un musée racontant son histoire, t'imagines nous autres. Puis, tu sais, c'est comme, l'histoire d'un peuple, c'est un arbre. Hein? Et s'il y a eu des branches, s'il y a eu des bourgeons, s'il y a eu des feuilles, s'il y a des gens qui se sont rattachés, il faut parler du tronc. Là, on veut faire un arbre sans tronc. Il n'y aura que les branches, les feuilles et les bourgeons. Et c'est tout.
Ben, on appelle ça le Canada, normalement. C'est-à-dire le Canada est un pays qui n'a d'identité que sa diversité, sa quête d'une diversité encore plus grande. Je note, soit dit en passant, que hier ou avant-hier, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a proposé sa propre définition de l'identité française, puis a dit que l'essence de cette identité, c'est sa diversité culturelle et religieuse. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler la canadianisation par le chemin de l'islam militant de l'identité française. Donc, comme quoi, on n'en sort pas nulle part. Mais je pense qu'au Québec, on peut quand même mener ce projet. Puis on peut le mener, pourquoi? Parce que les Québécois, c'est le paradoxe des petites nations. Elles savent qu'elles peuvent disparaître, mais quand elles en prennent conscience, elles veulent réactiver le sentiment de leur conscience historique. Comment s'est écrit l'histoire au Québec? On pourrait dire notre historien le premier, c'est François-Xavier Garneau. Après l'échec des Patriotes, après l'acte d'union, pourquoi François-Xavier Garneau écrit l'histoire du Canada? Parce qu'il dit, on vient de nous expliquer, c'est Durham, qu'on n'existe pas comme peuple. Qu'on n'existe pas, c'est fini. Donc, peuple sans l'histoire, sans littérature, qui va être balayé de la surface du monde pour le plus grand bien qui pourrait leur arriver, c'est de devenir anglais. Et Garneau dit, non, on va vous faire la preuve qu'on existe, et on va vous la faire comment? En racontant notre histoire. Puis là, il retourne vers la Nouvelle-France, il raconte un parcours glorieux. Puis oui, autant où il raconte l'histoire, c'est une histoire qui est rendue difficile. Il dit, l'enjeu pour nous, c'est de nous maintenir, de survivre, de durer, mais la grandeur de nos actes passés font la légitimité de notre existence dans le présent. Gros, ensuite, qui a suivi, il y en a d'autres, on s'entend, mais Gros, qui est la deuxième grande figure de notre historiographie, lui, son projet naît au début du 20e siècle quand il constate que la conscience historique des Canadiens français est complètement aplatie. Puis elle est dominée par les mythes bonententistes, la conquête providentielle et puis tout ça. Et là, il va relancer la conscience historique des siens, puis il va faire un travail exceptionnel. Alors, tous ceux qui diabolisent Gros me rendent fou. Il fait un travail exceptionnel. Il faut lire la biographie de Courtois, d'ailleurs, sur ça. Il réactive la conscience historique des Canadiens français en rappelant notamment le caractère absolument tragique de la conquête. Et l'École de Montréal, qui va suivre quelques décennies plus tard, donc Séguin, Frégaux, Brunet, eux reprennent cette lecture d'une histoire clivée par un moment tragique qui est la conquête. Ils poussent jusqu'au bout puis ils disent, mais si on veut que surmonter la conquête, c'est la reconquête qui est nécessaire, c'est l'indépendance. Donc, et là, il y a d'autres figures qui vont exister. Les historiens plus contemporains, moi, je trouve les meilleurs, c'est ceux qu'on a appelés, c'est ceux que j'ai appelés dans mon premier livre, les historiens populaires du Québec. Je pense pas juste à La Courcière, mais je pense à Jean-François Lisée, quand ils ont raconté dans Le Tricheur et le Naufrageur l'histoire du choc constitutionnel des années 90. Duchesne, qui a raconté l'histoire de la Révolution tranquille à travers le personnage de Parizeau. Pierre Godin, qui nous a raconté l'histoire du Québec avant, pendant, après la Révolution tranquille avec René Lévesque. La biographie de Camille Lorrain, de Picard. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est que l'histoire du Québec moderne s'est racontée à travers l'histoire des grands hommes, des grandes femmes qui ont fait le Québec moderne. Puis ça choque, soit dit en passant, ça, c'est à la corporation, les historiens souvent, parce qu'ils considèrent que la biographie, c'est pas une manière de raconter l'histoire parce que ça donne trop d'importance à la liberté humaine. Faut raconter des structures ou alors l'action des minorités. Mais raconter les grands hommes d'un peuple, ça serait un peu réactionnaire. Ben, chose certaine, raconter l'histoire des grands hommes d'un peuple, c'est une manière aussi de réactiver la conscience historique d'un peuple.
Écoute, au Québec, on passe souvent d'un extrême à l'autre. C'est vrai, pendant longtemps, on avait occulté peut-être l'importance des Premières Nations, etc. Bon. Mais écoute, mes filles ont eu des cours d'histoire. Puis là, je leur demandais, vous apprenez quoi? Vous avez appris quoi aujourd'hui dans votre cours d'histoire? Les Autochtones. Ben, c'est le fun. OK, correct. 4 mois après, qu'est-ce que vous avez appris dans votre cours d'histoire? Les Autochtones. Vous êtes encore aux Autochtones? Oui, OK. 3 mois après, qu'est-ce que vous avez... On est encore chez les Autochtones. Je dis, écoute, il n'y a pas rien des Autochtones. À un moment donné, là, on est, parce qu'on les avait occultés, là, on se sent coupable. Et là, soudainement, ben, je trouve qu'on accorde beaucoup, beaucoup d'importance à ça. Et est-ce que ça serait possible, Mathieu, est-ce que c'est méchant de dire ça? Est-ce que c'est colonialiste de dire ça? De dire, oui, il faut raconter l'histoire des Autochtones. Il y aurait peut-être un musée national des Autochtones, ouais, qui est mis sur pied par les Autochtones eux-mêmes, puis avec des historiens autochtones, il n'y a pas de problème, c'est correct? Mais tu sais, faut-tu phagocyter, vampiriser là, l'histoire nationale?
Je suis absolument d'accord. Moi, l'histoire des Autochtones est une histoire tout à fait légitime, évidemment. J'ajoute que l'histoire de la relation entre les Amérindiens et les Français est une histoire passionnante. Parce que c'est pas la même qu'avec les Anglais, c'est pas la même qu'avec les Espagnols, c'est pas la même qu'avec les Portugais. C'est intéressant, ça. Mais évidemment que notre histoire mérite d'être racontée en elle-même. Mais, alors, ça va être la journée du chanoine Gros. Il y a une formule de Gros qui dit « Rien n'émeut autant le Canadien français que de lui faire la preuve de sa propre existence. » Bon. Et je pense que on est de retour là-dedans. Il faudrait presque retrouver le bonheur immense de découvrir qu'on existe vraiment. parce que tout le système idéologique dominant est un système qui est programmé pour invisibiliser ou déconstruire des nations. Donc, on a fait sauter, moi, je me rappelle tout mon parcours universitaire, en sciences sociales, mais pas seulement, c'était un parcours où tous les concepts qui permettaient de nommer la nation étaient déconstruits. On parlait des identités multiples, on parlait des différents réseaux de discrimination systémique qui seraient à l'avantage exclusif d'une majorité contre les minorités, tout ça. Donc, en Europe, le roman national, comme on dit, a été déconstruit. Donc là, et aujourd'hui, il faut juste être capable de revoir ce qu'on a devant les yeux, l'existence d'un peuple. Ce peuple qui s'est appelé français, qui s'est appelé canadien, qui s'est appelé canadien-français, qui s'est appelé québécois, aujourd'hui québécois-francophone, qui est un peuple généreux, ouvert, mais encore doit-il exister pour être généreux et ouvert, mais il faut renouer avec le droit de nommer son existence. Le régime canadien ne le permet pas. Faut pas oublier. Puis ça vient ensemble. Le régime canadien, c'est un système politique qui est programmé pour invisibiliser puis rendre inimaginable la nation québécoise. Ce qui existe au Canada, c'est les francophones, hein. Il y a la province of Québec, il y a les francophones. Mais la nation québécoise, elle n'existe qu'à la manière d'une concession rhétorique sans substance. Bon. Alors, pour nous, si on veut nommer notre existence, ça implique de sortir du cadre mental qui est celle du régime dans lequel on évolue. Ça implique de sortir de l'idéologie dominante depuis les années 90, 2000 surtout, puis être capable de renouer avec cette évidence fondamentale, nous existons. Et dès lors, de ce constat d'existence, on peut le mettre en récit dans l'histoire, on peut tirer une politique aussi de tout ça, mais on doit renouer avec l'intuition fondée de notre existence. C'est peut-être beaucoup, mais...
Mais tu parles, là, tu parles du mot en haine. Nous, le mot en haine. Oui, regarde ce qui se passe là, dans les universités. C'est le dogme de la diversité à tout prix. Je m'excuse, mais ça va être un flop total, ce musée-là. La chicane va pogner parce que ça va être la diversité. Et là, pour calmer tout le monde, ils vont mettre de l'eau dans leur vin. Là.
Ben moi, je vais donner un conseil à ceux qui vont porter ça. Je ne sais pas qui sont les... Mais vous ne serez pas aimés. Je vous l'explique à l'avance. On va vous traiter d'extrême droite, de raciste, de xénophobe. On va peut-être scruter vos relations passées en voyant que vous connaissez les méchants nationalistes conservateurs. Peut-être avez-vous déjà porté cette étiquette vous-même. C'est pas impossible. Bon. Et là, je dis à ces gens, courage. On vous aimera pas, mais là, ne pas être aimé n'est pas agréable, mais c'est souvent la condition nécessaire pour faire quelque chose. Et à ce moment-là, quand tous les lobbies antinationalistes qui sont financés publiquement, faut jamais l'oublier, et en partie par le fédéral, mais pas seulement. Et là, quand ceux qui portent le projet vont se dire, on ne se couche pas, on mène le projet, il va trouver tôt ou tard l'approbation populaire. Mais ça, pour ça, il faut du courage. Ne pas être aimé par la clique du commentariat radio-canadien. Puis ça peut être difficile pour certains.
Ben toi, tu connais Éric Bédard, l'historien. Il est comment? Est-ce qu'il va pouvoir se tenir droit dans la tempête ou va essayer d'accommoder chacun et son prochain?
Je ne juge pas du caractère des hommes publiquement, un par un. Je constate qu'il a fait des œuvres intéressantes, son livre sur les réformistes, son histoire du Québec pour les nuls. Donc, il a fait un travail tout à fait méritoire. Ensuite, il n'est pas plongé régulièrement dans les querelles publiques. Donc, on verra comment il réagira devant ça. Il ne m'appartient pas de trancher sur la qualité morale d'un homme ou non. Mais il porte le projet.
Ça commence à vanter fort, là. Tu vois, là, déjà, là, il y a des lettres ouvertes dans les différents journaux. On dit, c'est épouvantable parce que, comme disait Rémi Villemur vendredi lorsqu'on s'en est parlé, on confond Musée national de l'histoire du Québec et Musée de l'histoire nationale du Québec, qui n'est pas la même chose.
Non, absolument, absolument. Mais je reviens à la question des porteurs. Donc, si on regarde l'histoire des livres de Bédard, donc son livre sur la crise d'octobre, ensuite Recours aux sources, qui est un livre assez important, un recueil d'études, ses réformistes, il y en a fait plusieurs quand même, on voit que la pensée est là pour faire un tel travail. Ensuite, l'idée, c'est qu'il faut être capable d'affronter toute une corporation, faut affronter tout un milieu, ça lui appartient, comme je dis, je ne me prononce, on verra bien, mais je lui souhaite bon courage dans les circonstances, c'est une bataille, moi je connais aucune bataille nationaliste qui se mène aujourd'hui en obtenant l'approbation et l'amour du système qui cherche à anéantir le nationalisme, et même la nation tout simplement. Donc ce sera une bataille, on va assister à ça, dans l'espace public, plusieurs la mèneront, faut accepter quelquefois d'avoir des alliés imprévus, hein, des alliés indésirés même quelquefois, mais de l'autre côté, il faut dire que l'idée même de la nation, on en fait le procès, donc comment pourrait-on avoir un musée d'histoire nationale, c'est autre chose.
Je pense que le gouvernement Legault a sous-estimé la difficulté de la tâche. Ils sont rentrés là-dedans, oui. Là, puis ils savent pas à quel point ça va brasser.
Tu as raison à 100%, mais c'est pas de raison pour mener la bataille. Ils l'ont lancée. Eh bien, ça, c'est une bataille qui vaut la peine d'être menée. Courage à tous. Courage à ceux qui aiment être aimés et qui ne le seront pas. Ça va être difficile, mais c'est une bataille qui vaut la peine d'être menée dans les circonstances. C'est une belle bataille. Et ceux qui y sont déjà engagés méritent déjà, de ce point de vue, nos félicitations.
En tout cas, je rappelle que Mathieu nous a appris que la France a essayé d'avoir un musée national. La France est tellement fière de son histoire et tout ça. Et que même eux ont jeté la serviette. Ça regarde mal. Je veux dire, merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. On va se reparler demain, peut-être, tiens, non, lundi, excuse-moi, des élections européennes. Salut.